Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, place au débat d'Europe Soir. Nous sommes avec Eduardo Riancipel, porte-parole de Territoire de Progrès, la majorité présidentielle. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous sommes également avec Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise. Bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Macron est arrivé il y a maintenant à peu près 2 heures en Algérie. Alors du côté du Rassemblement National, il y a un élément de langage qui circule dans la bouche de plusieurs membres du parti. Peut-être allez-vous vous aussi l'employer, Monsieur Ballard. C'est une visite de soumission pour beaucoup de députés Rassemblement National. Vous allez dire la même chose ce soir ?
Écoutez, il y a toujours un passage obligé quand un chef d'État se rend en Algérie, c'est d'aller devant le monument aux morts, à la gloire des, du
Tous FLN. Les chefs d'État se rendant en Algérie doivent le faire, participer à une cérémonie aux martyrs.
Bon, voilà, ça commence un peu par de la soumission. Après, on nous dit que c'est un travail de mémoire, mais un travail de mémoire, c'est bien quand c'est fait dans les deux sens. Pour l'instant, on est dans la culture de l'excuse et de la soumission côté français. Et côté algérien, on n'entend pas beaucoup de propos pour s'excuser, pour rendre hommage aux milliers de harkis ou de pieds noirs qui ont été assassinés par le FLN en 1960-61 et puis évidemment 62 lorsque l'on a quitté l'Algérie. Voilà. Mais en fait, le but de ce voyage, c'est autre chose, on l'a très bien compris, c'est d'aller négocier des contrats de gaz parce qu'on s'est tiré une balle dans le pied avec ce boycott du gaz russe, 17% de nos approvisionnements. Mais en fait, on n'a pas eu besoin de le boycotter puisque les Russes ont fermé le robinet eux-mêmes. Voilà. Et du coup, on se retrouve le bec dans l'eau avec un mur d'inflation qui se dresse devant les Français pour cet hiver. Et quand on va avoir la fin de cette protection, pseudo-protection du bouclier tarifaire, je pense que ça va faire très très mal à partir du mois de janvier, février, mars.
Alors, un ancien ambassadeur de France en Algérie nous expliquait à la mi-journée sur Europe 1 que le gaz était un sujet en fait tout à fait secondaire dans cette visite de 3 jours du président Emmanuel Macron, bien qu'il y ait évidemment la patronne d'Engie dans cette délégation impressionnante, 90 personnes. Le sujet central, c'est surtout la crise des visas, Eduardo Riancipel.
Oui, c'est une belle visite. Je pense qu'elle est chargée de beaucoup de sens. Ce n'est jamais facile d'organiser un voyage pour un président français en Algérie. Et quand il y en a un, c'est un très bon signal. Ça veut dire que les choses sont en place et qu'il y a de la disponibilité de part et d'autre pour dialoguer et avancer de manière constructive. Et le président ne reste pas qu'un jour ou même une seule journée aller-retour. Il reste 3 jours. Je pense que c'est significatif. Et je pense que c'est important. Nous avons une longue histoire avec l'Algérie. L'Algérie, c'est un peu la famille. Et nous avons une histoire qui est aussi difficile, tragique que belle. Et je pense que nous avons plein de choses à construire ensemble dans le futur, que nous avons même des destins liés, ne serait-ce que par la Méditerranée. Nous avons la Méditerranée en commun. Et je crois que ce qui peut nous rassembler de part et d'autre dans un co-développement ou des partenariats dans le futur peuvent davantage nous rassembler que quelles que soient les divisions ou les difficultés qu'on peut connaître entre la France et l'Algérie. Donc je crois que c'est une belle visite, elle est importante. Et le gaz aussi est une dimension importante, même si elle n'est pas la principale. Et il ne faut pas non plus avoir peur de parler des sujets qui sont des sujets très concrets pour la France, pour nos besoins énergétiques. Mais je crois que très largement, les relations entre la France et l'Algérie dépassent le simple cadre d'échanges comme ça d'hydrocarbures ou de matières premières. Ce sont des relations très fortes et c'est important que le président puisse y rendre pendant 3 jours. Je pense que c'est un très bon signal.
Quelques points de repère sur le gaz russe, la Russie, le gaz algérien. Ouh là là, pardon, excusez-moi. Quelques points de repère sur le gaz algérien. L'Algérie est un grand pays producteur de gaz. C'est le 9e pays producteur au monde. La France, pour le moment, importe à peu près 8% de son gaz d'Algérie. Sur la crise des visas, vous m'avez pas répondu.
Ah oui, pardon. Alors sur la crise des visas, c'est vrai que c'était un sujet de tension récent entre la France et l'Algérie. Mais si le président se rend en Algérie, c'est que les choses ont été préparées aussi en amont. Ça veut dire que c'est très positif parce que cette question-là, qui était un point de tension, voire de blocage entre les deux pays, qui avait rendu difficile les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, il ne faut pas se le cacher, ça a été tendu. Et bien, le fait que le président y aille, ça permet d'entrevoir, je pense, un règlement et un règlement de cette affaire des visas dans la durée, avec un partage des rôles de part et d'autre.
L'affaire des visas, on rappelle, hein, la France pour faire pression sur l'Algérie pour qu'elle reprenne en quelque sorte
ce sont les
Algériens sous OQTF, donc
une obligation de quitter le territoire.
On a réduit de moitié l'octroi des visas français aux Algériens. Philippe Ballard.
Oui, mais ce qu'il faudrait, c'est avoir des chiffres. Parce qu'il y a un an, effectivement, il y avait eu cette... entre Paris et Alger, Monsieur Darmanin avait dit « Vous ne voulez pas reprendre les personnes que l'on souhaite expulser du territoire national », ceux qui avaient une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, parce qu'il n'y avait pas de laissez-passer consulaire de délivrer. Du coup, on va délivrer beaucoup moins de visas. Bon, il y a eu des dizaines de milliers de visas qui ont continué à être délivrés. Et de l'autre côté, il y avait... chiffre de 2021, 7700 OQTF de délivrés par les préfets. 7000, un peu plus de 7700 même. Et à l'arrivée, 22 expulsions. Je dis bien 22 expulsions. 7500 d'un côté, 22 expulsions parce qu'il y a eu des laissés-passer consulaires délivrés au compte-gouttes. Mais il faut un bras de fer, il faut de la volonté politique dans cette affaire. Il n'y a pas de volonté politique. Alors on attend les chiffres, Gérald Darmanin a dit, on va vous donner les chiffres.
C'est quand même un discours curieux.
Non mais attendez, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Mais Philippe Ballard, vous ne pouvez pas dire dans un premier temps, dire oui, on y va en Algérie, dans un esprit de soumission, de mea culpa ou de je ne sais trop quoi. C'est ça votre discours dans un premier temps. Et maintenant, vous plaindre que le sujet est en train d'être réglé parce que le président, il y va. Donc, il y va, ça veut dire que le travail est fait. Le travail est fait pour avoir un dialogue. Parce que nous, pouvons établir autant d'obligations. Enfin,
on parle de quelques centaines.
On parle
voilà, c'est 22 expulsions.
Nos relations avec l'Algérie, elles sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus solides que la simple question des visas ou même celle du gaz. Ce sont des choses importantes.
C'est fondamental.
Mais nous avons des partenariats aussi avec le monde étudiant et universitaire. Nous avons énormément de choses à partager avec l'Algérie. Et je pense que nous avons un co-développement et des partenariats à affermir dans les années qui viennent, qui sont aussi positifs pour la France que pour l'Algérie. Et encore une fois, si le président de la République se rend en Algérie, c'est que cette question des visas va bientôt être derrière nous, qu'un règlement va être trouvé entre les deux pays, pour que précisément, lorsque une obligation de quitter le territoire frappe des ressortissants algériens en France, ils puissent précisément bénéficier des laissez-passer de la part de l'Algérie pour qu'ils puissent donc quitter la France et rentrer dans son pays.
Vous êtes en train de nous expliquer que, si on prend les chiffres de 2021, 7700 OQTF de délivrés, il y aura 7700 expulsions.
Non mais moi je me prononce pas sur les expulsions,
j'en suis
pas responsable.
Donc on va faire un bond de 98%.
Ce que je peux dire, c'est que la France a fait son travail. Et deuxième point, parce que vous aviez dit ça tout à l'heure aussi, je trouve que c'est quand même un discours du Rassemblement National qui est bien inquiétant, qui semble préférer continuer à dépendre de M. Poutine et de son gaz plutôt que d'essayer de trouver des alternatives. Ouais, immédiate avec du gaz alternatif d'une part, avec notamment l'Algérie ou d'autres pays,
et surtout notre autonomie stratégique
en faisant les investissements nécessaires pour continuer avec une partie de nucléaire et avoir des énergies renouvelables. Ça, c'est le grand projet quand même de long terme pour qu'on ne dépende plus des hydrocarbures de l'étranger.
D'accord.
Principal partenaire gazier en Europe, c'est la Norvège.
La Norvège, absolument, on va le rappeler.
C'est pas tout à fait au Moyen-Orient.
Et on reçoit en grande pompe le prince héritier saoudien. Alors là, c'est pour les matières premières, autres que le gaz.
Surtout,
mais on nous fait des grandes leçons de morale. Ne dépendez pas des régimes dictatoriaux comme ceux de M. Poutine et de la Russie. C'est très clair.
Il y a
un pays agresseur et un pays agressé. L'agresseur, c'est la Russie. Et le pays agressé, c'est tout simplement l'Ukraine. Il faut que ça soit très clair. Sauf que là, nous, on se pose une seule question. Qu'est-ce qui est dans l'intérêt des Français? Dans l'intérêt des Français, c'était de ne pas boycotter ce gaz russe. Encore une fois, on n'a pas eu besoin de le boycotter puisqu'ils ont fermé eux-mêmes le robinet. Donc maintenant, on se retrouve le bec dans l'eau à la recherche de matières premières. Et puis on parlait du nucléaire. Le double discours d'Emmanuel Macron sur le nucléaire, il est quand même assez flagrant. Il ferme Fessenheim et en même temps, il nous annonce l'ouverture de prochaines centrales nucléaires. Alors ça prendra 10, 15 ans. C'est le en même temps qui se poursuit. Et aujourd'hui, on a fermé 4 réacteurs pour cause de corrosion parce que depuis des années, avec le discours complètement délirant des écolos, on se prive d'une filière, on ne forme plus d'ingénieurs, notamment dans le nucléaire. On a toutes les peines du monde à maintenir à niveau notre nucléaire français qui nous assurait notre indépendance.
EDF assure qu'il tiendra ses objectifs de livraison d'énergie ce soir. Édouard Dorian-Sipel.
Voilà, je rappelle que EDF est une maison solide qui maintiendra ses objectifs. Ils viennent de le affirmer, vous venez de le rappeler. Je rappelle aussi que le président de la République a décidé de la nationalisation à 100% de EDF pour justement se donner les objectifs de l'autonomie stratégique. Je pense que c'est un geste très fort de la part de l'État, du président de la République, dans la pleine tradition française issue du général de Gaulle. Moi, je trouve que c'est l'esprit de la période et que cet esprit doit aussi nous conduire à faire tous les efforts pour avoir de plus en plus d'énergie renouvelable aux côtés du nucléaire, pour sortir de la dépendance des hydrocarbures. Ça nous permet simplement d'avoir non seulement une énergie propre, de lutter contre le réchauffement climatique et de respecter les enjeux pour lutter contre ce défi climatique qui est devant nous. Et aussi, cela permet d'être indépendant, et notamment face à des régimes autoritaires qui peuvent jouer de l'énergie, du gaz, du pétrole, pour des bénéfices politiques ou géopolitiques. Donc, c'est une façon, tout simplement, d'asseoir notre indépendance pour la France,
dans une période de fin d'abondance, nous dit le président de la République.
Ou en tout cas, il faut effectivement...
Moi, je veux bien, mais il y a les chiffres qui sont sortis. Hein. En ce qui concerne les panneaux solaires, on a produit 40% des capacités qui sont normalement envisagées. Alors qu'il y a, ça ne vous a pas échappé quand même, eu beaucoup de soleil cet été. Et l'éolien, quand il y a un anticyclone, ben, il n'y a rien de produit. Voilà, tout simplement, on se souvient de ce qui s'est passé en Suède en février 2021, anticyclone, moins 38 degrés et plus de chaleur pour se chauffer puisqu'il n'y avait plus d'électricité. Comme modèle, franchement, je pense qu'on fait un peu mieux. Il y a le nucléaire, il y a l'hydraulique aussi. Ça permet d'asseoir notre indépendance énergétique.
Nous n'avons aucune limite en matière de mix énergétique et de bouquet énergétique. Toutes les technologies sont les bienvenues.
Le
il y a des technologies actuelles et puis il y aura des technologies futures.
Emmanuel Macron n'a pas abandonné le nucléaire.
Bah, il a fermé Fessenheim.
Non, mais
Fessenheim,
tout ça,
on va rappeler que
non,
ça
mais les caricatures,
c'est
une
trois fois,
non,
c'est, vous. C'est une caricature. C'est quand même la réalité.
Non, mais c'est une caricature.
Pas Emmanuel Macron qui a décidé fermé. De fermer Fessenheim.
Non, mais il aurait pu revenir en arrière. Il aurait pu dire non, stop, je ne le fais pas.
Non, mais ce qui compte, c'est ce qu'il a proposé il y a quelque temps pendant la campagne présidentielle et qui a été validé d'ailleurs par les Français. En tout cas, il y a une réalité. Vous parliez tout à l'heure des centrales et des quelques réacteurs qui étaient fermés. C'est vrai, pour des raisons de maintien et notamment pour répondre aux enjeux de corrosion dans certains endroits. Donc, ça va être encore heureux qu'on fasse les travaux, qu'on ait une sécurité nucléaire qui soit au point. Mais tout ça, ça se planifie, ça s'organise. La France, elle est loin d'une pénurie. Je crois qu'il faut quand même rassurer les Français. Et je rappelle aussi que la France, 97% de notre production d'énergie, d'électricité, elle est totalement propre. Elle n'émet pas de CO2. En raison notamment du nucléaire. Mais nous avons... tous les volets hydrauliques, les éoliennes, et puis aussi il y a les éoliennes sur mer. Il y a plein de technologies à développer, sans parler de la sobriété énergétique et des efforts que nous avons à faire sur notre propre
carnage écologique. Hein, les éoliennes
très content
en mer.
Que vous parliez de sobriété énergétique, Edouard Dorian-Sipel, parce que là on se projette sur le long terme. J'aimerais qu'on vienne plus près de nous, parce que vous l'avez dit, on est contraints toutes et tous hein, à une sobriété énergétique et les prix de l'énergie augmentent très fortement. Le gouvernement a prolongé le bouclier tarifaire, 20 milliards d'euros dans le dernier budget. Les prix dans les pays où il n'y a pas de bouclier tarifaire, les prix du marché, les prix des marchés mondiaux, c'est 400% de hausse de ces dernières années, depuis en fait, le début de la guerre en Ukraine. Le tarif réglementé limite cette hausse à 4%. On annonce de nouvelles secousses, de nouveaux bouleversements sur le marché de l'énergie pour le début d'année prochaine. Comment on va faire pour à la fois protéger les Français les plus vulnérables, Edouard Dorian-Sipel, et protéger le déficit et la dette de la France, 20 milliards d'euros pour ce seul bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité?
Il y a plusieurs volets. Le premier volet, c'est un volet d'aide immédiate aux Français. De pouvoir d'achat, ça a été donc le blocage, ces barrières des prix. Et ça, c'est très important parce que ça permet de préserver justement les impacts de l'inflation sur le portefeuille des Français. Ça, c'est un volet. Et ça a montré, je crois, l'effort que le gouvernement a été prêt à faire en ce sens. Et je ne doute pas que demain, si nous avons de nouvelles secousses, le gouvernement et le président de la République prenaient des mesures aussi pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Le deuxième volet est un volet aussi où nous devons tous faire attention. Si on peut faire des économies, chacun à notre échelle, les citoyens, les entreprises, les administrations. Je pense que nous pouvons toujours améliorer notre manière de consommer avec les usages. Ce n'est pas très compliqué de débrancher ce que nous avons à la maison sur les prises électriques, que ce soit les chargeurs des téléphones, des ordinateurs. Enfin, il y a des petites pratiques, on se met peut-être un peu moins d'eau. Lancer ces machines à laver le linge ou la vaisselle plutôt à partir de 23 heures parce que c'est moins cher et qu'il y a moins de besoin d'énergie générale. Donc je pense que, et c'est pareil aussi, on parlait des éclairages la nuit, ce n'est pas uniquement ce qu'il faut faire, mais croyez-moi que des gestes de cette nature permettent, je crois, de répondre dans le court terme aux besoins. Et puis, il y aura toutes les actions structurelles que les pouvoirs publics devront mener, de court terme comme de long terme, pour préparer la société à faire face justement à une énergie plus chère, aux besoins aussi de consommer moins et différemment, avoir cette sobriété énergétique qui est aussi une façon de lutter contre le réchauffement climatique, contre l'émission de CO2 dans l'atmosphère.
Faut-il prolonger encore le bouclier tarifaire pour l'année prochaine? Ce sera discuté lors de l'examen du budget 2023, le projet de loi de finances. Le Rassemblement national demande encore la baisse de la TVA. Vous allez chercher vos idées en Allemagne, si j'ai bien compris.
Ah bah non, parce que l'Allemagne l'a fait la semaine dernière. Marine Le Pen le proposait durant sa campagne présidentielle. Donc l'antériorité, elle est quand même de notre
en
côté.
En Allemagne, la TVA est à 19%.
Elle passe à 7%. Voilà.
À 7.
Et nous, Marine Le Pen proposait pour tous les produits énergétiques, pas seulement voilà, le gaz, l'électricité, le fuel, l'essence,
et vous avez
etc.
Comptez combien ça coûterait?
Oui, 15 milliards d'euros, mais parallèlement, je vous rappelle qu'on avait un programme qui présentait toutes les économies que nous réalisions et sur l'ensemble du quinquennat, c'était 68 milliards d'euros. Donc il y a aussi des économies à faire par ailleurs. Mais j'écoutais Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, il a été assez clair. Hein, il a dit que ça n'allait pas continuer comme ça sans fin. C'est le 31 décembre, le bouclier tarifaire sur le gaz s'arrêtait et c'était le mois de juillet pour l'électricité. C'est comme les 30 centimes de remise du gouvernement à la pompe. Il y a Total qui fait un geste similaire. Alors, il faut déjà avoir, moi, dans ma circonscription, il n'y a que deux stations Total. Donc,
le Rassemblement national voulait un litre d'essence à 1,50 €.
Ben, on baissait la TVA, ce qui permettait, en fait. La TVA permettait d'arriver à 1,50 € en fonction, évidemment, du prix du baril. Alors après, il y a effectivement le conjoncturel et le structurel. Ça, c'était pour le conjoncturel, parce qu'il y a l'urgence devant des millions de Français. Et puis le structurel, le prix de l'énergie en Europe. Enfin, quand on nous dit l'Europe nous protège, non, c'est... Pardon, même Bruno Le Maire considère qu'effectivement, tout cela est très mal géré. Le prix de l'électricité, il est fixé sur le prix du gaz. Et le prix du gaz, il est fixé par rapport à la centrale qui produit l'électricité au gaz dans le pays qui est le moins compétitif. Alors généralement, on tombe toujours sur la Bulgarie et la Roumanie. C'est délirant comme système. Nous, ce qu'on a, c'est très simple. Hein. En France, on vend le prix de l'électricité aux particuliers et aux entreprises au prix de production. Et grâce au nucléaire, on fait baisser la facture. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça permettrait aux Français de sortir la tête de l'eau.
Alors j'aimerais qu'on parle d'éducation maintenant, puisque le président Emmanuel Macron s'est exprimé devant les recteurs à la Sorbonne ce matin. Petite interlude juste avant, si vous me le permettez, car on a une page spéciale consacrée au tirage au sort de la Ligue des Champions. Il est en cours. Sachez d'ores et déjà que le Paris Saint-Germain affrontera la Juventus de Turin et le Benfica Lisbonne. Un choc est également au programme dans le groupe C. Le Bayern Munich, le FC Barcelone sont dans la même poule. Une poule où il y a également l'Inter Milan. On y reviendra en détail vers 19h30 tout à l'heure. Page spéciale avec Marc Libra et Jimmy Algerino. Revenons à notre débat dans Europe Soir avec Eduardo Riancipel, porte-parole de Territoire de Progrès, et Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise. J'aimerais qu'on réécoute Emmanuel Macron qui a fait un constat tout à l'heure. La situation est compliquée dans l'éducation nationale.
Force est de constater que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes. Nous avons encore trop d'élèves malheureux, trop de parents d'élèves anxieux, de professeurs désabusés ou qui ont le sentiment d'avoir parfois perdu le sens de la mission, d'autres fois de ne pas être reconnu comme il le devrait. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas dans notre organisation collective.
Voilà, tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes, dit Emmanuel Macron au sujet de l'école. Philippe Ballard, vous partagez le même constat?
Le problème, c'est que ça fait plus de 5 ans maintenant qu'Emmanuel Macron est président de la République. On a l'impression qu'il découvre, l'état du pays. Alors oui, les professeurs sont mal payés. Les rapports de l'OCDE sont là pour le montrer. Il y a des difficultés de recrutement. Il y a des matières comme les mathématiques où on est en pénurie de professeurs d'allemand. J'allais le signifier. Mais il n'y a pas que ça. Vous vous souvenez du hashtag « pas de vague » Voilà, quand les professeurs sont agressés dans leur classe, ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie. Il y a des vidéos terribles qui circulent où ces professeurs sont roués de coups sans aller jusqu'à, hélas, Samuel Paty ou ce professeur de philosophie, Monsieur Le Maire, attrape, qui travaille sous protection policière. Donc c'est un ensemble de choses. On a perdu le respect, l'ordre, la discipline. Ça fait un peu penser à Fresnes, hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Et puis aller enseigner dans des quartiers ou dans une classe où vous avez 10 langues différentes de pratiquer.
Édouard Doré, rien si pelle.
Quelle richesse, c'est ça, c'est bien.
Bah, c'est la réalité d'enseignants et de Français,
tout
simplement.
C'est une richesse pour la France, il y a plein
de Français. Ah non, ce n'est pas une richesse. Le multiculturalisme, c'est un échec. Même Angela Merkel l'a dit. Non,
alors, pardon. Chacun a ses points de vue. Laissez-vous parler, qu'on puisse vous entendre.
Si les petits Français sont capables d'être bilingues, ont plusieurs langues ou polyglottes, ça, c'est une extrême richesse pour la France. Et bravo aux Français. Moi, je pense que ce sont des choses qu'il faut soutenir. Il ne faut pas peur d'apprendre des cultures ou des langues étrangères. C'est un atout pour la France, tout simplement. De même que le français
est
très appris à l'étranger. Et vous avez raison, il faut renforcer l'enseignement du français. Ça, je n'ai aucun doute. C'est une chose fondamentale pour réussir dans la vie, dans la société d'aujourd'hui.
Il faut des professeurs de français pour ça.
Et je trouve que le discours du président de la République a été d'une grande sincérité et très courageux, parce qu'il a mis, la lumière sur des difficultés réelles qui sont vécues par le monde de l'éducation, par l'école, par les enfants. Il a parlé de certaines difficultés importantes chez certains élèves. Il a parlé de la détresse qui peut exister chez certains parents d'élèves. L'anxiété, la peur de l'échec, de se retrouver seul et de ne pas réussir à progresser dans le système scolaire public. Et il a parlé aussi de la perte de sens que pouvaient vivre de nombreux enseignants. Et je crois qu'il y a répondu d'une manière très concrète dans un premier temps, avec ce qui était d'ailleurs, je rappelle, une promesse de campagne, le fait qu'aucun enseignant français ne démarre sa carrière en dessous de 2000 euros net par mois. Mmh. Ça, c'est une mesure forte. Et encore une fois, je trouve que ça a été un discours très courageux qui cherche à regarder la situation en face, les difficultés de l'école, pour qu'elle réponde à 100% aux enjeux qui sont les siens de former les citoyens français et de leur donner une éducation solide.
Philippe Ballard, le Rassemblement national a des idées à faire valoir sur l'éducation. Pourquoi vous ne participez pas au Conseil national de la refondation le 8 septembre prochain? Vous avez 30 secondes.
D'accord, je vais être très bref. Parce que c'est de la com. Ça me rappelle, vous savez, après les Gilets jaunes, il y a eu ce grand tour de France, ce show d'Emmanuel Macron. Et ces cahiers de doléances, on ne sait pas où ils sont partis et on ne sait pas sur quoi ça a débouché. Et puis un Parlement, juste pour information. Hein, ça peut, c'est beau la démocratie, on peut aussi s'appuyer sur les parlementaires.
Mais vous en discuterez à l'Assemblée nationale, j'ai aucun doute. Enfin, les textes, ils viendront devant le Parlement. Il y a
aussi des moindres des choses.
N'ayez pas de crainte.
Merci, Édouard Rian-Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès. Merci, Philippe Ballard, député Rassemblement national de l'Oise. Marseille a un groupe pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Plutôt chanceux, les Marseillais. Francfort, Tottenham et le Sporting Lisbonne. Ouais. On en parle plus en détail dès 19h30.
C'est faisable pour l'OM, c'est difficile pour Paris, mais faisable aussi.
Avec nos consultants Marc Libra et Jimmy Algerino. A tout de suite, dans quelques instants, un nouveau journal sur Europe 1. Restez avec nous.